Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Cela commence par une voyante qui lit l'avenir. C'est normal, c'est son métier. Elle le lit dans les cartes. Cela se termine par un jeune homme, un journaliste apparemment, que l'on pourrait qualifier de dépendant aux cartes. On ne tape pas le carton dans l'émission Le Monde Insolite, consacrée ce jour-là à la fascination des cartes. On croit en elles. On aime sans doute les battre avec amour et couper le jeu. Peut-être que ces gestes sont aussi importants que l'appât du gain ou la croyance en un tarot divinatoire. On y apprend, en tout cas, qu'à une époque, ou à certaines époques, les cartes étaient taxées. Un bel impôt. Première diffusion sur France Culture, le 29 avril 1973.
En dehors des tarots qui remontent à l'Antiquité, l'invention des cartes a été attribuée tour à tour à la France, à l'Allemagne et à l'Italie. Quoi qu'il en soit, dès 1398, la passion qu'elles engendraient devint telle que le prévôt de Paris dut rendre une ordonnance interdisant de jouer les jours non fériés. Mais les résultats de cet édit ne furent pas concluants et depuis cette époque, les cartes n'ont pas cessé de fasciner à des titres divers un nombre considérable d'individus. Françoise Robin, auteure d'un livre « La voyance, mon aventure » qui connaît un grand succès, va nous retracer, dans leurs grandes lignes évidemment, les origines des tarots.
Nous ne savons pas exactement d'où ils viennent. Certaines prétendent qu'ils viennent des Indes et d'autres de l'Égypte.
Comme les Tziganes.
Voilà, c'est cela, oui. Il y a d'ailleurs le tarot des Bohémiens qui existe, qui est un tarot différent. Et celui que j'utilise, c'est le tarot des imagés du Moyen-Âge. C'est un tarot qui est très très ancien et qui est très lié avec la Kabbale aussi. Il y a d'ailleurs dans le bas, il y a des signes kabbalistiques.
Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi ces tarots-là ?
Parce qu'ils sont pleins de philosophie surtout. Ils sont très symboliques. Ils parlent beaucoup plus qu'un autre jeu de cartes et c'est beaucoup plus profond. Je trouve qu'il y a un côté très 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 fascinant et surtout extrêmement profond. Et je peux vous dire que de tout temps, enfin depuis que je pratique, j'ai mis des années pour apprendre l'interprétation car c'est très difficile pour interpréter le tarot et c'est très subtil quelquefois. Et il y a une question d'ambiance car ce que j'appelle, il ne parle pas. Étant donné que je pars par des chiffres et que je sors une carte, et quand la même carte se répète, c'est que ça ne marche pas, il faut recommencer. Il faut qu'il y ait une certaine ambiance, sinon ce sont des cartes qui sont très 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 sensibles. On ne doit pas poser la même question, on la pose quelquefois sous un jour différent, et c'est toujours la même réponse qui sort. On a découvert des cadavres, et on a pensé que c'était des cadavres qui étaient très très récents, Et dans leur cercueil, puisqu'ils étaient dans un cercueil, ils avaient la forme du pendu. Ça a été assez révolutionnaire, mais il n'y a pas très longtemps qu'on vient de découvrir cet événement. Donc on est en train de faire des recherches. Et il y a une carte qui est la lame numéro 12 qui représente le pendu. Après, il y a la carte numéro 13 qui représente la mort, c'est-à-dire la transformation. Donc on a retrouvé ces deux êtres qui étaient liés par les pieds, qui avaient dans leur cercueil les pieds en l'air, comme le tarot. Et à côté du pendu, sur les tarots, il y a des branches. Il y a 6 branches de chaque côté. Et dans ce cercueil, on a donc trouvé de chaque côté ces 6 branches. Alors on essaie maintenant de comprendre. Et cela remonte à 2000 ans. Donc, vous voyez que les tarots...
C'est assez étonnant.
C'est très étonnant comme découverte.
Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un crime rituel ?
Moi, je le pense. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ces êtres ont encore leur cœur, même la couleur de leurs yeux, rien n'a été abîmé.
Est-ce que les cartes ordinaires vous servent aussi ? J'appelle le jeu ordinaire, le jeu de cartes avec lesquels on joue au poker, on joue au bridge, on joue à toute espèce de choses.
Bien sûr, je me sers aussi de ces cartes qui, malgré tout, ont un très grand rapport avec les tarots. Il y a malgré tout un lien, et je pense qu'elles sont issues elles-mêmes des tarots. Par exemple, dans le tarot, je me sers uniquement des 22 lames, mais quand on se sert de tout le jeu de tarot, il y a les deniers, il y a une carte qui représente des deniers, et qui correspondent au trèfle dans les cartes ordinaires.
Est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes qui viennent avoir affaire au tarot pour savoir ce qu'il va advenir d'eux, redoutent les cartes?
Il y a des personnes, ce qui me surprend souvent, qui ont une aversion totale pour les cartes et qui ne veulent pas toucher les cartes.
Mais qui viennent néanmoins savoir ce qu'elles disent.
Oui, mais pour eux, c'est un supplice. Comme j'ai remarqué aussi, quand je demande donc un chiffre, pour sortir une carte, comme j'en ai 22, par exemple, je vous demande un chiffre, vous me dites le 5, je sors la 5e. Et les personnes qui sont très bloquées au point de vue psychique, j'ai beaucoup de mal à leur faire donner un chiffre. Je leur dis, mais pourtant il y a 22 chiffres, mais elles ont beaucoup de... Alors là, je commence à voir déjà que ces personnes ont des problèmes et sont bloquées psychologiquement.
Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra avoir une explication, ce qu'on appelle scientifique, scientifique au sens où les savants actuels l'entendent.
Même rationaliste, je pense.
Rationaliste,
oui.
Voilà.
Moi, je pense que d'ici quelques années, peut-être 10 ou 15 ans, on aura une explication. On peut appeler ça des ondes, par exemple. Et je suis certaine qu'un jour, il y aura une explication scientifique.
Nous allons entendre maintenant le docteur André François, dont le violon d'Ingres, en quelque sorte, est la spécialisation de l'histoire des cartes, tant passée que contemporaine. Docteur, il semble qu'à toutes les époques, on se soit passionné pour les jeux de cartes. Mais actuellement, il semblerait que nous atteignions à un maximum, et ceci dans toutes les couches de la société.
Certainement, les joueurs de cartes à jouer sont extrêmement nombreux. Je ne parle pas des jeux d'argent, des casinos, mais ne serait-ce que la belote, le bridge et tous les autres jouets comme la canasta. Je crois que si un jour nous nous arrachons à notre planète et que nous partions vers une planète lointaine, les astronautes emporteront un jeu de cartes à jouer.
On a essayé d'autres jeux, mais jamais aucun n'est arrivé à rivaliser réellement avec les cartes. Est-ce que les cartes opère une sorte de magie sur les gens qui les manient, sur les joueurs qui les manient? À quoi attribuez-vous cela?
Ce qui caractérise l'histoire des cartes à jouer, et même l'histoire actuelle, c'est qu'il y a deux choses dans la carte à jouer. Il y a, d'une part, dès l'origine, et encore maintenant, dans le cas des tarots, et même dans le cas des cartes à jouer ordinaires, c'est l'intégration de la divinité, l'appel à la chance, l'appel aux connaissances représentées sur une feuille de papier. Et d'autre part, l'appât du gain. Le tarot divinatoire, correspond à l'intégration de la divinité, et le tarot jeu correspond à l'appât du gain.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des différents jeux de cartes, enfin très rapidement pour en arriver à l'époque moderne, et nous parler du jeu de cartes assez fantastique que vous venez de réaliser?
De tout temps, à côté des cartes à jouer dont on sert pour jouer, nos enseignes françaises étant les plus répandues depuis bien des siècles, il a toujours existé des jeux qu'on peut qualifier de fantaisie. Et dans ces jeux de fantaisie, il y en a deux qui ont toujours existé. C'est d'une part des jeux qu'on peut qualifier d'artistiques, si vous voulez, et d'autre part des jeux à tendance d'enseignement ou de politico-satirisme, si vous voulez. Toujours.
Ils existent, ces jeux ?
Il en existe toujours. Il en est édité constamment. Un des derniers, par exemple, étant celui sur la famille Kennedy, qui a été édité à New York il y a quelques années. Ces jeux régulièrement font leur apparition. Ces jeux caractérisent régulièrement un événement historique précis et ne sont jamais employés par les joueurs. Je me suis dit, comme incontestablement les jeux de cartes et les cartes à jouer plus exactement sont le reflet de toutes les activités humaines, et que chaque siècle ou chaque partie du siècle a toujours comporté la naissance d'un jeu de cartes caractérisant un moment donné, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant et amusant d'avoir un jeu dont chaque figure serait l'œuvre d'un peintre différent, donnant un certain reflet de la peinture actuelle.
Est-ce qu'il existe un endroit, une sorte de musée, où sont rassemblés des jeux de cartes depuis les premiers, ceux qu'on a pu conserver, jusqu'à ceux qui sortent à l'insu du grand public périodiquement?
Oui et non. Oui, il existe un endroit où on peut voir de très très beaux jeux. Ce sont les archives à la Nationale, à la Bibliothèque Nationale. Il n'existe pas en France, à part au musée des arts décoratifs, où je crois qu'il y a certaines planches exposées, mais il n'existe pas à proprement parler en France de musée de la carte à jouer. Dans l'histoire de la carte à jouer, il y a un chapitre qui est tout de même assez amusant, c'est le chapitre de l'imposition, des taxes prélevées sur les cartes à jouer. Car c'est une histoire qui finit par être rocambolesque. Les quartiers étaient libres jusque sous Henri III, c'est-à-dire que jusqu'à l'époque d'Henri III, ils ne payaient aucune taxe. Henri III, comme chacun sait, a eu de sérieux ennuis d'argent. Et il en a cherché, comme bien d'autres gouvernements, il en a cherché où il pourrait en trouver. Et il s'est aperçu que les cartes à jouer, qui à l'époque étaient distribuées d'une façon considérable, il s'est aperçu que ça pouvait être une véritable petite mine. Il a commis l'ordonnance, la première ordonnance de taxation des cartes à jouer, qui est un véritable petit chef-d'œuvre, puisque le sens revient à dire ceci: les cartes à jouer et les joueurs de cartes sont des gens qui sont responsables de viols, de vols, d'assassinats, ils perdent leur famille, ils dépensent tout leur argent, et ce doit être, en France, formellement interdit. Mais comme, moi, le roi, je suis absolument incapable de savoir comment l'interdire, mieux vaut que ça me rapporte de l'argent. C'est exactement ce qui est marqué dans l'ordonnance. Le phénomène curieux qui se passait, c'est que à partir du moment où les taxes étaient perçues, les quartiers s'arrangeaient autant que faire se pouvait pour ne pas la payer, et la contrebande se développait d'une façon considérable. Résultat, au bout de quelques années, la taxe n'était plus rentable. Alors, le pouvoir central supprimait la taxe. À ce moment-là, les quartiers recommençaient à être libres, recommençaient à faire des affaires, recommençaient à avoir un chiffre d'affaires qui intéressait le pouvoir central, qui, au bout de quelques années, remplaçait la taxe. Et ça a été comme ça jusqu'à ces dernières années. Mais je peux vous dire que jusqu'à la Révolution, il y a eu 54 alternances de liberté et d'imposition. Quant aux anecdotes alors qui ont pu émailler, si vous voulez, l'histoire de cet impôt sur la carte à jouer, elles sont légion. Il y en a une que j'aime beaucoup. Sous Henri IV, je ne me souviens plus si c'est sous Henri IV ou sous Louis XIII, le guet ou la police du moment a découvert un atelier de fabrication de cartes de contrebande dans les fossés du Louvre, juste sous l'appartement, enfin les appartements du roi, à peu près à la hauteur du pont royal. Quand vous venez de la rive gauche et vous traversez le pont royal, vous avez le Louvre sur votre droite, eh bien, le rempart du quai que vous voyez là, et là existait pas un tripot clandestin, mais une fabrication clandestine de cartes à jouer, alors que les taxes étaient à l'époque très lourdes. C'est assez savoureux quand même.
Le témoignage que vous allez entendre est celui d'un joueur auquel il sera conservé l'anonymat. 30 ans environ, plutôt moins que plus. Grand reporter, du succès, mais... Avec une lucidité assez troublante pour ce qui concerne son propre cas, il va définir, ébaucher, la personnalité du joueur en 1973. Rappelons qu'il existe deux sortes de salles de jeu. Celle des casinos, où les femmes sont admises, celle des cercles privés, où elles ne peuvent pénétrer. Nous allons peut-être trouver une explication de cet ostracisme à travers ce qui va suivre. Pour bien situer le problème, voulez-vous nous dire quels sont les jeux dans un casino ou dans un cercle privé qui comportent des cartes ?
Qui comportent des cartes, dans les casinos, il n'y en a pas 40. Il y a le chemin de fer et le baccarat, en gros, sont les plus connus et les plus attirants. La seule différence qui existe entre ces deux jeux, c'est que dans l'un, vous jouez contre la banque, c'est-à-dire contre le casino. C'est-à-dire que si vous gagnez, vous retirez de l'argent au casino. Dans l'autre, le casino est arbitre, vous avez simplement des adversaires qui sont d'autres joueurs, c'est tout.
Est-ce que pour un joueur, les cartes sont plus fascinantes, je reprends le terme, que la roulette par exemple ?
Il y a deux sortes de jeux, enfin moi je trouve.
Est-ce qu'il y a deux sortes de joueurs ?
Non, il y a 50 sortes de joueurs, mais le vrai joueur, il n'y a qu'une sorte. Il y a le jeu d'abord, où on est passif, c'est-à-dire on est en attente et... Je veux dire, le sort joue pour vous, et, par exemple les courses ou la roulette, par exemple. Et il y a ensuite le jeu où on est actif. Alors ce sont les cartes, c'est le chemin de fer, le baccarat, parce qu'on a une décision à prendre dans le déroulement de la partie, et puis bien sûr le poker, le bridge, etc. etc. Le joueur, le vrai joueur, pour lui le jeu c'est une maîtresse exigeante, si on peut dire. En plus de ça, elle est fatale parce qu'on ne l'abandonne jamais, alors donc ça peut conduire à la catastrophe. Ça conduit très souvent. Mais je crois que ce qui est intéressant quand on s'assoit à une table, c'est qu'on a l'impression qu'on a rendez-vous avec son destin. On n'a jamais rendez-vous avec son destin et on ne peut pas le changer, mais on a l'impression. On voit tout de suite les deux possibilités, c'est-à-dire où on va s'acheter le cheval, la voiture, la ferme dont on rêve, et, ou alors on va perdre ce qu'on n'a pas. Parce que la seule excitation du jeu... c'est de jouer à la limite de ses possibilités. C'est ça l'excitation. C'est pour ça que je trouve qu'il n'y a aucune fascination aux courses. D'autres vous diront le contraire. Mais il n'y a aucune fascination aux courses, par exemple, où on est obligé de mettre l'argent avant de jouer. Au casino aussi, bien sûr, on est obligé de mettre l'argent. Mais on trouve l'argent. C'est-à-dire que quand on l'emprunte 10 minutes avant d'aller jouer, on fait la tournée ses amis. Et qu'aux courses, il faut... c'est passif, c'est pas la même chose.
On dit que la gourmandise est un vice, mais le jeu en est bien un.
Bon, le jeu, c'est un vice parce que on attribue les cartes toujours dans les films et la littérature aux mauvais garçons, aux gens qui n'ont pas grand-chose à faire dans la vie. Le fait est que si on passe du temps à jouer aux cartes, c'est au détriment du temps qu'on consacrera à autre chose, c'est évident. Mais je veux dire, c'est une forme d'esprit, le jeu.
Est-ce que les femmes jouent autant que les hommes ?
Dans une partie sérieuse, en principe, il n'y a pas de femmes. On attribue le jeu aux hommes. D'abord parce que le jeu, depuis toujours, est une affaire d'hommes. Tous les jeux virils, parce que les cartes sont un jeu viril, malgré tout,
sont des jeux d'hommes. Et pourquoi les cartes sont-elles un jeu viril ? Je l'admets, bon, d'accord, mais je voudrais que vous essayiez d'expliquer.
Parce qu'à une table de cartes, le naturel et les mœurs de quelqu'un se découvre plus que dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est peut-être comme au lit, si vous voulez. Et la façon
vous
de perdre...
Vous pensez que c'est la personnalité révélée par un comportement donné.
Oui, c'est le naturel pur qui se révèle aux cartes. Dans la façon de conduire son jeu, de suivre, la façon de perdre, la façon de gagner, la façon de mener son jeu.
Et on peut avoir des surprises sur la personnalité d'un adversaire ou d'un compagnon de jeu.
C'est évident. C'est évident, c'est pour ça que c'est très difficile de jouer avec ses amis. Il faut jouer avec des connaissances, il ne faut pas jouer avec des amis. Enfin...
J'entends.
Je continue à dire que l'excitation vient à partir du moment où on joue à la limite de ses moyens. Il est évident que si je gagne 1 million par mois et que je consacre 20 000 francs au jeu, bon, je les donnerais volontiers à n'importe qui.
Ça n'est plus du jeu.
Oui, c'est plus du jeu. Mais si on gagne 500 000 francs par mois et qu'on sait qu'on va à une partie où on risque de perdre 1 million, là, ça commence à devenir excitant.
C'est assez effrayant tout ce que vous racontez. Mais vous pensez que c'est un jeu viril à cause du risque ?
À cause du risque et surtout à cause de l'attitude qu'on doit avoir après la partie.
C'est-à-dire ?
Mais il faut pouvoir supporter ce qui découle de vos pertes ou de vos gains.
Des gains aussi ?
Oui, des gains aussi.
Expliquez-vous.
Par exemple, si dans une partie je suis grand gagnant... Je dois gagner avec modestie, je dois prendre mon argent, c'est évident. Je dois le prendre sans remords, puisqu'il est hors de question que, quelle que soit la perte, je ne paye pas. Dans une autre partie future ou passée. Alors l'emploi de l'argent gagné au jeu, alors là, il doit être selon la circonstance. Je veux dire, je me suis déjà vu avec 20 000 francs en poche aller... dans un cercle dont je n'irai pas le nom, près de l'opéra, pour en avoir 50, parce que j'en avais besoin. D'un autre côté, je me suis déjà vu avec 1 million la veille d'un départ pour l'Afghanistan, et les perdre dans la nuit parce qu'il m'en fallait 2 et remettre mon départ. Je veux dire, il faut supporter les conséquences des pertes et supporter les conséquences du gain, je veux dire.
Est-ce qu'on peut dire que c'est à la fois une sorte d'aventure extérieure qui rejoint l'aventure intérieure ? S'il n'y avait pas le jeu ? Et si le monde était autrement qu'il n'est, il pourrait y avoir une autre aventure qui demande les mêmes qualités, de sang-froid, de risque admis.
Non, le jeu est une forme de risque à l'échelle de la vie qu'on mène en ce moment, c'est tout.
Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui jouent ?
Il y a énormément de gens qui jouent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent avec une mentalité de...
De joueurs,
de kamikaze, oui. Et encore non, parce que l'exemple m'a choisi, parce que le kamikaze va forcément à la mort, le joueur, non. Là où ça devient dramatique, c'est quand le joueur se double de superstition, comme c'est mon cas. Parce que le problème psychique est très important, je veux dire. Il faut avoir une mentalité de gagnant. Alors vous vous raccrochez après n'importe quoi, c'est-à-dire que vous vous rendez à une invitation pour une partie, en cours de route, vous dites, si j'ai 3 feux verts à la suite, ce soir je gagne. Et si par hasard vous en avez 2, vous dites c'est le signe du sort. Et puis quand vous perdez effectivement, vous dites c'était pas le sort, c'était vraiment l'oracle des dieux, j'aurais pas dû jouer. Je veux dire, c'est très...
Il y a des superstitions autres qui sont respectées souvent par un joueur ?
Bien sûr, ça ne va pas. Vous demandez à changer de jeu de carte, on change la couleur du jeu de carte, la carte était rouge, vous demandez une carte bleue, personne ne peut refuser. Et souvent ça arrange.
Et souvent, ça
paie. Oui, j'ai déjà vu, par exemple, être appelé au téléphone, perdre un maximum, être appelé à un téléphone, et pendant que vous êtes au téléphone, quelque chose se passe, vous revenez, et la partie change.
Je sais que les aviateurs m'ont toujours raconté quelque chose de tout à fait compréhensible, mais quand même d'un peu étrange. Quand ils ont un fétiche, ils n'y croient pas, mais il y a quelque chose qui est vrai, c'est que ce fétiche prend une sorte de vie au cours du temps qui passe. Et les cas sont multiples où le fétiche étant oublié ou perdu, ils ont un accident. Non, alors ils recommencent à y croire, etc., etc.
Pour les cartes surtout, il faut avoir une très très bonne forme physique.
C'est important ?
Oui, parce que dans de nombreux jeux, on joue évidemment avec les cartes que l'on possède, mais on joue aussi beaucoup avec les cartes qu'on suppose qu'à l'adversaire. Il faut jouer avec la prémonition, son instinct... Enfin, je veux dire, Il y a une série de lois qui fait que les cartes sont très dangereuses. Je vous disais, il faut jouer à la limite de ses moyens. Et quand on a atteint cette limite et qu'on perd, on devient nerveux, on ne joue plus correctement, on a un raisonnement qui se fausse et on perd évidemment beaucoup plus encore. Et plus on perd et moins on devient sain dans sa façon de jouer, ses raisonnements, ses attaques, ses relances, etc. etc. Et on ne fait que s'enfoncer, c'est évident.
Est-ce que le jeu est comme la drogue ? Est-ce qu'il est difficile de s'en détacher ? Ou est-ce qu'au cours de la vie arrive un moment où même si on a beaucoup joué à un moment donné, on peut très bien abandonner le jeu en tant que tel, d'une façon aussi violente ?
Non, on ne peut jamais se détacher du jeu. Alors on peut faire un statu quo, c'est-à-dire que, comme j'ai eu des graves ennuis de ce côté-là, j'ai pris la décision de ne jamais prendre du temps de travail pour le consacrer à un temps de cartes.
C'est déjà pas mal.
Malheureusement, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Ça fait que le temps des cartes est réduit. Mais je veux dire, on peut jouer à n'importe quoi. Moi, je joue à n'importe quoi. C'est-à-dire, quand je me promène avec des amis, ils sont joueurs comme moi. On joue, on voit deux pigeons, on a chacun l'autre. Le premier qui se pose a gagné temps. S'il se pose et qu'il se renvole, on gagne le double. S'il se pose pas du tout... on a perdu, s'il disparaît, on doit quatre fois la mise.
Ne vaut les cartes, si je comprends bien.
Rien ne vaut les cartes parce qu'on est actif. C'est-à-dire une décision peut être capitale.
Et parce que jusqu'à un certain point, beaucoup de choses que l'on est, que l'on représente, que l'on sent, entrent en ligne de compte.
Oui, on voit très bien les personnalités, les signes du zodiaque aux cartes. Par exemple, les gens fonceurs... suivent beaucoup trop de coups, les gens accrocheurs aussi, sans faire, alors que des gens pondérés sont capables d'attendre des tours et des tours que la main leur revienne, que la chance leur sourit de nouveau.
Et elle finit par revenir. En moyenne, on gagne combien ? Une fois et on perd 10 fois, ou il peut arriver le contraire ?
Mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de moyenne. Pour faire une statistique de ce genre, il faudrait se dire je joue tous les jours au même taux et à la fin de l'année, je calculerai.
Oui, ce serait peut-être un peu délicat.
Oui.
Dieu sait où on arriverait, surtout d'après tout ce que vous racontez.
On n'aurait peut-être même plus de quoi s'acheter le crayon servant au calcul.
En somme, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour un joueur ?
C'est de savoir que l'on possède l'intelligence des cartes. Je veux dire... Bon, il y a la technique qui s'apprend, il y a des règles de base, mais en définitive, tout est une question de conjoncture à chaque partie et d'initiative. Il doit y avoir une communication avec les cartes, comme il y a une communication entre le cavalier et le cheval. Ça ne s'apprend pas. Et l'intelligence des cartes, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Je pars. Tu peux dormir encore. Les mots ne sont plus entre nous que des jetons de casino. Impair et passe. On me ratisse les 4 chevaux du 14, qui fut le jour de notre joie. Pour le peuple qui nous entoure, ce sont les signes des couleurs, les entreprises du hasard. Pour moi, je les entends qui frappent les routes mouillées de l'automne, ces cavaliers précipités. Écoute, ils traversent nos villes, les prés penchés par notre poids. Écoute, ils font crier leur sel. Et penchés sur des inconnus, ils disent, en nous montrant, qu'on ne gagne jamais au jeu. Ce poème était d'Alexandre Tourski, écrivain de grand talent et joueur.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 avril 1973, date à laquelle n'existait aucun musée de la carte à jouer en France, ainsi qu'on le déplorait donc dans cette émission. Depuis, a ouvert le musée français de la carte à jouer, c'est à Issy-les-Moulineaux, aux portes de Paris. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».